Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous nous étions donné l'objectif de décrypter quelques expressions et l'une des deux, en tout cas que j'avais annoncée, a été faite quand il est dit à l'article 612, Jésus accepte sa mort en tant que rédemptrice pour porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois. Et puis l'autre expression qui est l'article 613, que nous allons pouvoir voir maintenant, la mort du Christ est à la fois le sacrifice pascal qui accomplit la rédemption définitive des hommes par l'agneau qui porte le péché du monde. Je vois bien, et c'est pas étonnant évidemment, on repère bien que lorsqu'on entre dans ces expressions-là, qu'il convient de regarder d'assez près, il y a un certain nombre de vocabulaires. Tu avais parlé de la satisfaction, expiation. Je pense que on l'épuise pas ce vocabulaire pour être tranquille avec, parce qu'en plus un certain nombre de générations ou de courants dans l'approche théologique ont essayé de s'en passer un petit peu. Et je pense qu'on a besoin, de nous confronter aux mots, de les assumer, de les reconnaître et en voir aussi la valeur. À chaque fois, d'ailleurs, qu'on les aborde, je me rends bien compte que c'est l'amour de Dieu se trouve d'autant plus magnifié, si je puis dire, d'une certaine façon. Peut-être donc en entrant dans cette expression « l'agneau qui porte le péché du monde », je repère juste avant le mot « la rédemption ». C'est un mot qu'on entend beaucoup dans la liturgie notamment. La rédemption, au fond, c'est le rachat.
Le rachat, exactement. Oui, c'est le rachat. Et cela se comprend bien à travers ce qui était indiqué la dernière fois, la satisfaction qui littéralement veut dire faire assez dans un dépassement, hein, puisque ce que fait Dieu, il le fait toujours avec ce qu'il a, il est infini. Et donc c'est un dépassement par rapport aux peines accumulées conséquente du péché que l'homme ne cesse d'accumuler. Le sacrifice est satisfactoire car il remet la peine due au péché. Il est propitiatoire car il replace dans la faveur et la bienveillance de Dieu, rendre propice. Et nous avons beaucoup de passages de l'Écriture qui aiment cette expression du propitiatoire. C'est par exemple Romains chapitre 3, où il nous est dit que Jésus, donc, nous a véritablement, en 3:25, offert un sacrifice, donc, propitiatoire. Et Dieu l'a exposé instrument de propitiation par son propre sang, moyennant la foi. Ce n'est pas sans un appel, bien sûr, à la réponse de l'homme, puisque moyennant la foi, c'est de demander à l'homme d'accepter ce mystère de salut. On le trouve aussi dans la première épître de Saint Jean, donc je vous lis le passage. C'est lui, en parlant de Jésus-Christ, le juste, qui est victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est considérable, c'est là où on voit le dépassement que Jésus opère sur la croix, c'est-à-dire qu'il n'opère pas seulement pour les péchés passés qui ont eu lieu avant lui dans le peuple juif, etc., mais pour le monde entier, donc pour nous, ça nous concerne aussi. C'est ça qui est extraordinaire, de la surabondance de cette satisfaction, de cette substitution vicaire aussi, comme on l'appelle parfois. Et puis on le voit en 1 Jean 4:10, on voit encore le mot apparaître de propitiation. Donc vous voyez, c'est un mot biblique et il y a la révélation. À chaque fois qu'il y a un mot qui est donné, il faut le creuser. On ne peut pas sauter au-dessus. Je vous lis le passage. En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Donc vous voyez, c'est très très clair. Et la tendance actuelle, ce serait toujours vouloir ramener cela au simple don. Dieu a donné sa vie, Dieu a donné son Fils, Jésus a donné son corps, Jésus a donné son sang, etc. Sans aller jusqu'à l'idée de l'expiation. Et ça, c'est dangereux parce que on s'appuie sur des passages de l'Écriture. Et c'est vrai que dans l'institution de l'Eucharistie, il est surtout dit « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous ». C'est pas faux, mais juste avant. Saint Paul, par exemple, rappelle dans 1 Corinthiens 11, 23, la nuit où il fut livré. Et donc, ce don, c'est un don livré en même temps, hein, pour notre expiation. Et le sang est encore plus caractéristique, puisque à chaque fois, on dit le sang versé pour vous. Et il y a quelque chose de sacrificiel dans cette idée de sang versé. L'Épître aux Hébreux dit qu'il n'y a pas d'expiation des péchés sans versement de sang. Et donc ça, c'est une certitude, si vous voulez, de foi, que le sang du Christ était nécessaire à cette expiation, à cette satisfaction. Et donc il faut interpréter toute l'offrande eucharistique dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est ce que fait la liturgie de l'Église. Elle utilise bien le corps livré pour vous. On l'a même, cette fois-ci, inclus dans le nouveau canon de la messe de Paul VI, justement pour que ne soit pas oublié cet aspect de livraison, hein, cet aspect d'avoir été donné d'une manière, je dirais, violente et d'une manière sanglante, finalement, pour qu'il y ait cette expiation pour le péché. Ça ne s'imposait pas à Dieu d'une manière nécessaire, cette satisfaction. C'est une, comme on l'a vu pour l'incarnation, rien ne s'impose à Dieu, mais c'était le moyen le plus beau, le moyen le plus grand pour que Dieu réalise ce grand don. Et on peut voir comment opère finalement la passion du Christ, parce que quand on dit livré pour nous, le sang versé pour nous, ben, y a toute la passion qui est comprise. Et comment cela a-t-il agi? Eh bien, on a une formule très belle de saint Thomas d'Aquin, qui est quand même la référence de l'Église. Par deux fois, le Concile Vatican II le recommande. Et il dit, par rapport à la divinité du Christ, la passion du Christ a agi par mode de déficience, comme quelque chose qui était donné par la toute-puissance de Dieu. Par rapport à la volonté de l'âme du Christ, elle agit par mode de mérite. Et les mérites sont importants parce qu'ils nous permettent de participer, nous aussi, par nos propres mérites, au mérite du Christ. Par rapport à la chair même du Christ, elle agit par mode de satisfaction. Et c'est là où l'on voit qu'il fallait aller jusqu'à la chair du Christ pour qu'il puisse payer de sa personne, payer de son corps, voyez. Et c'est quelque chose de très beau, c'est l'infini de l'amour qui se révèle à ce moment-là. En tant que par elle, nous sommes délivrés de l'obligation de la peine. Hein, donc la satisfaction marche particulièrement avec la peine. Par mode de rachat ou de rédemption, qui était évoqué au début, en tant que par elle, nous sommes délivrés de l'esclavage de la faute, et par mode de sacrifice, en tant que par elle, nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc, toutes ces expressions, on voit bien, sont connectées les unes avec les autres. Et la plus importante, ben, c'est voir, c'est l'amour de Dieu qui agit avec efficience. À chaque fois qu'on parle de satisfaction, il s'agit toujours de remonter à l'aspect formel de la satisfaction, qui est l'amour. On ne peut pas se couper de cet aspect-là, car sinon on risquerait de passer à côté. Le constitutif formel de la satisfaction est la charité. La satisfaction est un acte humain qui, pour être efficace, doit procéder de la charité. Et c'est ce cœur qui nous a tant aimé, qui a tant aimé le monde, qui s'est livré. Il faut toujours revenir au chapitre 17 de saint Jean et au chapitre précédent, où il nous est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et nous avons sans cesse à revenir sur le fond de cette satisfaction. La forme ou qu'on peut le dire, quant à la matière, bien sûr, ben, ce sont toutes les peines que Jésus a dû subir dans son corps, hein, du moment de l'agonie, la sueur de sang, la flagellation, la couronne d'épines, le crucifixion lui-même, le coup de lance final qui achève son parcours. Et il y a dans cet ensemble quelque chose qui nous montre que Jésus ne nous a pas pardonné d'une manière seulement, je dirais, extérieure. Il a voulu que son corps rentre dans ce mystère, donc, de satisfaction. Et on utilise aussi le mot rançon. Il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude, dit Matthieu 20, 28. C'est la même idée. La rançon, c'est que je me donne moi-même en échange de quelque chose. Et l'échange, c'est la liberté. On a retrouvé la liberté par rapport à la faute, par rapport au péché. Une fois, dans l'évangile de Saint Jean, il est dit, tant qu'on est pécheur, on est esclave du péché. Et Jésus, en donnant sa vie en satisfaction, en réparation, eh bien, nous a libérés de cet esclavage. Donc c'est ça qu'il faut saisir de la geste de Dieu, l'immense geste d'amour de Dieu, qui doit être toujours donc considéré du point de vue de la miséricorde.
Merci, frère Édouard, pour ces mots que nous avons vus de plus près.
À bientôt.
À bientôt.